question.
Mais t'as eu, c'est un putain de bar qui se trouve sur la montée de la grande côte. Et c'est là où il se passe plein de choses. Et tu rencontres plein de gens. Et quand tu ressors, t'as encore plus de courage que quand t'es rentré en fait. C'est un endroit un peu magique.
C'est un endroit spécial. Quand tu arrives, tu vas chercher à la cuisine ce qui reste à manger parce que la tôlière et sa maman cuisinière sont en train de boire le café, vient de finir le service, toi tu es en retard. Tu leur fais un café et tu te sers tout seul. Et tu payes quand tu as des sous et tu demandes pas de noter parce que de toute façon il éclaire tout le monde que tu payeras. C'est le seul bar comme ça que j'ai jamais rencontré. Après, j'en ai rencontré des autres, mais ça m'a pris 10 ans pour me sentir autant à la maison et ça n'a peut-être même pas marché autant. Ouais.
Mais il y a combien ?
C'est vraiment un endroit familial, comme à la maison.
Reportage.
Ça, je vais mettre un grand-père à pleurer. Ouais, c'est vraiment spécial. Quoi.
Tu rentres, t'es vide, tu ressors, t'es rempli.
C'est un peu le principe du bar, hein, généralement.
Oui, tu ressors, t'es plein.
C'est le... Oui, mais justement... C'est que là, tu peux être rempli d'autres choses que du liquide.
Le Dahu, on peut dire que c'est au bar ce que Mégacombi est à la radio. Et que la fin du Dahu, la veille de la disparition de Mégacombi, c'est un peu le signe que le calendrier Maya avait raison et que la fin du monde est proche. Ouais. Voilà.
La fin d'un café, ça va être plein de Dahu évadés sur les pentes qui vont s'en aller chercher partout leurs nouveaux oasis.
La fin du monde est proche, et oui, Mégacombi, dans quelques heures c'est fini, et dans quelques jours on n'aura plus de café de quartier dans la rue Burdeau sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est la fin des haricots, des ravioles et autres andouillettes à partager dans une atmosphère familiale, et hier c'était la dépendaison de crémaillère. Alors ce soir, Mégacombi est dans le Dahu avec Letty, la tôlière, derrière son beau comptoir et sous son antique escalier, face au baby-foot, elle nous raconte sa vie, son café, son quartier. Mégacombi est aussi devant le Dahu avec les clients qui fêtent une dernière fois leur cani dans une ambiance kermesse, rock'n'roll, chanson, nostalgie, diaporama, powerpoint et clip hommage. Bref, Mégacombi est au Dahu et le Dahu est dans la Mégacombi pour un dernier reportage à écouter en buvant un dernier picon.
Mégacombi, reportage.
Salut.
Salut.
Eh ben, Laetitia, je suis née, j'ai grandi place du Pont à la Guillotière. Je suis fille de commerçante, ma maman a pendant 35 ans une boutique de lingerie à Place du Pont. Donc moi je suis née dans un commerce, quand j'étais petite j'aidais ma mère dans la boutique. Donc ouais, de toute façon j'ai ça dans le sang. Ouais. Sauf que je suis pas une très bonne commerçante, mais ma mère l'était pas non plus. Bah, je suis pas une commerçante au sens calculer ses marges, maîtriser ses coûts et faire des gros bénéfices quoi. Je calcule, ça c'est sûr, je fais les comptes, mais je fais les comptes pour que ça passe. Je fais pas les comptes pour m'enrichir. Et puis le métier de la restauration, c'est celui de mon père, donc je crois que j'ai fait un mélange des deux, en fait. Mon père était gérant du bar américain, donc une grande institution, on fait le service traditionnellement, avec le litho sur le poignet, le plateau, on fait des courbettes aux gens et tout. Moi j'ai appris ce service-là, en fait. Et tu vois comme il s'est transformé. Traversé le Rhône pour aller travailler rue Sainte-Catherine à l'Albion, et puis j'ai plus jamais quitté le quartier, j'ai remonté les pentes petit à petit. Donc c'est en 96, 97, quelque chose comme ça, ouais. Et c'est là que je commence à rentrer dans l'univers du bar. J'avais jamais bu d'alcool pratiquement, j'ai pris ma première cuite, je crois que j'avais 20 ans, enfin bon, je connaissais pas les pentes, je connaissais pas la fête comme ça. Et puis ça me plaît, tout simplement. Et puis de l'Albion, je passe à l'Inconnu, qui était monté de la Grande Côte, au-dessus du Troxon. C'était un établissement qui était beaucoup fréquenté par des Sénégalais, des Antillais. Il y avait une super ambiance, beaucoup de solidarité, parce que évidemment beaucoup de gens sans papier, etc. Et j'ai découvert une autre vie, des trucs qui se passaient autour de moi, dont je n'avais jamais réalisé et pris la portée, en fait.
Le Dahu est un mammifère ongulé artiodactyle ruminant proche du lama. Cet animal a l'étrange particularité d'avoir deux pattes plus courtes d'un côté que de l'autre afin de progresser aisément sur des pentes abruptes.
Je suis à l'Albion à l'inconnu, l'inconnu ferme. Je fréquente en même temps à l'époque le baroque, donc anciennement mon établissement. Et je dis au propriétaire, je dis bah, cherche un endroit, il m'a dit je vends. Et je crois qu'il s'est passé 3 secondes dans ma tête. J'ai regardé l'endroit, j'ai regardé l'escalier, j'ai regardé le comptoir, j'ai dit ok, je prends. J'ai même pas demandé combien.
C'était quoi comme type de café, le baroque?
C'était aussi un café de quartier, avec beaucoup de motards, beaucoup de rock'n'roll, avec des vitres obstruées par des espèces d'autocollants pour créer de l'intimité, je suppose. Moi, je trouvais ça un peu étouffant. Et puis, voilà, avec une partie de la clientèle avec, dont je ne partageais pas les idées, et puis une autre partie de la clientèle avec qui je m'entendais plutôt bien. Après, on a fait le tri quand on a repris, quoi.
Le Taille.
Oh, l'œil de pente, c'est bien. C'est ce que j'ai inscrit à la chambre du commerce.
Le Taille.
J'ai ouvert le 23 janvier 2003.
Le Taille.
C'était un point géodésique. C'est un endroit qui est repéré par la science et qui définit un endroit dans l'espace. Dans cette cas-là, c'est ici, rue Burdeau, à cet angle. Voilà ce que c'était pour moi. Le centre des pentes, là où sont les gens que j'aime. C'est toujours un endroit particulier, qui est en plus extrêmement militant, l'air de rien. Et donc, du coup, c'est vraiment un vrai rad, un rad. C'est-à-dire un lieu où on vient boire, parler, se sociabiliser, on va dire. Enfin, vraiment un point géodésique. Voilà.
Donc j'ai dit, je veux cet endroit. La condition sine qua non, c'était que ça plaise à ma mère. Et puis que Julien me suive. À l'époque, on était un couple. Et ils m'ont apporté tous les deux un soutien, mais inconditionnel. Julien venait de perdre son papa, avait hérité d'un peu d'argent, il me l'a donné, mais si j'avais pas eu cet apport, j'aurais pas pu reprendre l'endroit, quoi. C'est une aventure qui a débuté à tous les trois, et on s'est bien serré les coudes. Ça a coûté 75 000 euros, et c'est juste le fonds de commerce, c'est-à-dire que j'ai racheté la clientèle, la licence 4, et puis le matériel. Par contre, j'ai un loyer pour les murs. Qui était ridicule, mais absolument ridicule, c'était 250 euros par mois.
Détail.
C'était un endroit où ça réunissait des gens qui se préoccupaient du quartier, de l'avenir du quartier, de faire des choses un peu alternatives dans le quartier, etc. Il y avait un petit côté mémoire aussi avec les vieilles affiches sur les luttes qu'il y a pu avoir avant à la Croix-Rousse. Et du coup, je trouvais que c'était pas rien que ce lieu-là il soit porteur de quelque chose. Et ça fait toujours un peu chier un bar comme ça qui ferme, quoi. Parce que ce qui rouvre, c'est pas toujours dans la même dynamique.
Dans les années 70-80, on a réhabilité tout le haut de la Grande Côte, qui était à l'époque, c'est vrai, pleine de ce qu'on appelle aujourd'hui de bidonvilles. C'était des appartements complètement délabrés, les gens vivaient dans des conditions indécentes, mais on les a pas laissés ici, on les a éparpillés entre Vez, Gerland, Vénissieux. Les gens sont déjà. Il y a déjà eu une première vague de départ, quoi, pour la restauration. En plus, ça fait un an ou deux que les appartements qui étaient réhabilités et qui étaient sous convention ne sont plus sous convention et que les propriétaires peuvent augmenter les loyers. Ils ne se sont pas gênés et ça continue de vider le quartier des gens qui sont les plus pauvres, quoi. Donc évidemment, tu vois arriver des nouvelles familles qui ont des revenus supérieurs, qui viennent là, qui font leurs courses par internet, qui se font livrer, qui vont même pas acheter leur pain dans le quartier, qui fréquentent pas du tout le quartier, ils rentrent chez eux, ils vont dormir, ils mettent leur gamin à l'école, et puis tu les vois jamais, le week-end ils se barrent dans la maison de campagne. Et du coup le quartier s'est vidé de la substance que moi j'ai connue à l'époque et s'est transformé en une espèce de zone dortoir où on voudrait que tout soit bien propre et bien calme.
Dans cette rue, tout ce qui restait à faire, c'était ça. T'as plus un épicier, il n'y a que des galeries et tout, rue Burdeau. Mais en fait, maintenant, on va se rassembler où, tu vois?
Dans les galeries, non?
Non, pas vraiment. Je sais pas pourquoi, mais la culture, ça doit me dépasser, ça doit être ça. Merci la politique immobilière.
Quand j'ai ouvert ici, c'était un jeudi, quand Julien est arrivé de son travail... Il m'a retrouvée en larmes dans la cuisine. Le premier jour, j'avais été menacée par deux personnes qui m'avaient dit « on te fera faire faillite, on te rachètera ». C'était des promoteurs immobiliers. Depuis la réhabilitation, ou quand il y avait le projet de la restructuration, il y avait des gens qui savaient déjà que les biens, les murs allaient prendre de la valeur et qui avaient déjà fait leur programme, quoi. Et d'ailleurs, j'ai été victime d'un promoteur immobilier sur les murs de l'établissement, hein. Ma propriétaire a vendu les murs pour 50 000 euros, c'est-à-dire une misère, à un gars qui m'a envoyé tout de suite un nouveau loyer multiplié par 4 et m'a proposé de les racheter pour 150 000 euros, sans même avoir mis un coup de peinture, en me laissant sans électricité, sans chauffage, sans rien dans l'appartement. Et du coup, j'ai fait une procédure au tribunal contre lui, quoi. On attend encore que le tribunal fixe le montant du loyer. Ça dure depuis 2009, c'est des procédures qui sont longues, il y a des expertises, etc. Et c'est au tribunal de fixer le nouveau montant du loyer. Il y a beaucoup d'opportunistes dans ce quartier qui ont racheté des tas de trucs et qui ont fait des plus-values, des jolies plus-values, quoi.
Le DAU, c'était un endroit exceptionnel. Il n'y en a aucun comme ça à Lyon et il n'y en aura jamais plus aucun.
Il y a des cafés qui ont disparu, ouais. Beaucoup. Des cafés, je pense au Bistroy, là, le premier qui me vient, c'est celui-là, parce que c'était quand même une institution dans le quartier. Disparu parce que quand les services d'écologie urbaine commence à te tomber dessus, tu sais que t'es foutu. C'est le pot de terre contre le pot de fer. On est en train de tuer le café au sens traditionnel du terme pour le remplacer par le Starbucks ou le McCafé, quoi. On nous prédit que c'est notre avenir, quand même. Ça fait flipper, hein. Des endroits complètement impersonnels, hyper lissés, où il n'y a plus d'échange d'idées, il n'y a plus de débats, il n'y a plus de rencontres. Tu prends ton café, tu l'emportes, tu vas bosser, t'es bien sage, tu restes bien tranquille. C'est hyper inquiétant, quoi. C'est hyper inquiétant.
En d'autres circonstances, le DAU est bien moins agile, notamment dans l'eau, et bien évidemment sur un terrain plat.
Comment ça fonctionne ici? Donc toi, t'es la patronne?
Oui, on peut dire ça, la patronne. Mais la patronne de personne, hein. Enfin, il n'y a pas de salarié, donc j'aime bien la tôlière, ça me plaît. Julien et ma mère sont complètement bénévoles, quoi. Moi, je fais du quasi-bénévolat si tu mets en face revenus et nombre d'heures de travail. Mais sans ça, on aurait dû travailler autrement. C'est une volonté, dès le départ, de rester un établissement accessible. Accessible à tous les revenus. C'est pas un café alternatif, et j'aime pas être présenté comme ça. C'est juste un café de quartier, quoi. Parce que ici, tu trouves pas de produits issus du commerce équitable. La bière est fabriquée dans l'industrie, c'est pas une bière artisanale. Tu manges pas des produits bio à midi. Pour rester dans les prix qu'on pratique, on est obligé de faire comme ça, quoi. Ouais, les gens, ils trouvent ça super, la bière à 2 euros, mais c'est de la Kronenbourg. C'est pas une bière artisanale.
Après le DAU, les canaux.
Bien noir avec les travaux de voirie. Et à chaque fois que je suis allée demander de l'aide, parce que j'en ai demandé de l'aide, que ce soit en mairie d'arrondissement, en mairie centrale, même auprès de Pierre-Alain Muet, j'ai demandé d'aide partout où j'ai pu, à la chambre du commerce, et personne m'a aidée. J'ai fait une démarche amiable auprès du Grand Lyon pour être indemnisée. Évidemment, ils ont refusé. Aujourd'hui, je suis en procédure, j'ai perdu à la première audience et je vais faire appel, mais j'y crois pas un seul instant, quoi.
Depuis plusieurs années, le bas des pentes de la Croix-Rousse donne parfois l'image d'un quartier délabré, certains murs tagués, un quartier voué à la vie nocturne. Gérard Collomb et la mairie d'arrondissement ont décidé d'un projet de réaménagement, un projet devenu aujourd'hui une priorité.
Et encore heureusement, j'ai eu vite une clientèle d'habitués qui s'est acharnée à venir, malgré les pelleteuses et les marteaux-piqueurs qui ont mangé dans des conditions improbables. Et grâce à eux, j'ai pu faire face aux charges obligatoires du café, mais je pouvais même pas me payer un RMI, donc je campais à l'étage du bar. On a monté une douche vite fait pour que je puisse quand même me laver, mais il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien là-haut.
On voit bien par exemple que les 2-3 premières rues, pour des raisons diverses, aujourd'hui sont un peu des rues repoussoires dans l'image des Lyonnais, puis aussi des touristes. Donc faire en sorte qu'il n'y ait plus cette transition un peu maudite entre d'une part le cœur de la ville et puis d'autre part le plateau de la Croix-Rousse, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important.
D'électricité parce que j'avais pas pu payer ma facture. Et la personne qui a proposé de m'aider ce jour-là était justement un RMI, qui m'a offert son RMI pour que je puisse rétablir l'électricité, quoi. Et ça, je sais pas à combien de commerces ça peut arriver, mais je pense que ça démontre le lien qui s'est créé entre les gens ici, quoi. C'est quand je me suis blessée à la main, j'ai ma main immobilisée pendant un mois, j'ai pas le droit de la mettre dans l'eau et tout. Et mes copines, mais d'autres gens autour, ont mis en place un espèce de planning relais pour venir m'aider à faire la cuisine, à faire la vaisselle, à ranger. C'est énorme, c'est incroyable, des trucs pareils.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde et on entend déjà la
Les temps de bannière, hein, tu sais bien. Hein. C'était des largages, des dragages, des bourrages, des bastons, du militantisme, beaucoup d'amour, du fun, du sexe, de l'alcool, des souvenirs immémorables, comme tout le monde a dû le dire sur cette petite bande-son. Ah tiens, je vois Laurie qui arrive. Longtemps que j'ai pas vu. Voilà, c'est ça, c'est le début.
C'est vrai que tout le monde se connaît. Tu viens manger au bar, tu viens seul parce que tu sais qu'il y a une grande tablée et que tu te mettras sur la... Tu mangeras pas seul, en fait.
Quatre espèces de dahus ont été répertoriées. Les dahus les vosgires, dextrogyres, Acinthus frontalis et Decinthus frontalis.
Le noyau dur du bar, où ils sont, je pense, entre 20 et 30, que tu peux étendre au double, c'est des fidèles, mais qui sont fidèles depuis 5 ans, au moins. Et pour d'autres, depuis le début, c'est des gens qui habitent le quartier. Pour la grande majorité, on est devenus amis, on se voit en dehors du bar, on fait des fêtes ensemble, on passe des week-ends ensemble. C'est une espèce de grande famille, ce qui, du coup, on est assez fermé finalement aux nouveaux gens. C'est très difficile pour des nouvelles personnes de s'intégrer au groupe, parce qu'on est parti d'un noyau qui s'est agrandi. Et puis, on est tellement... je crois qu'on a ce défaut de tourner vraiment entre nous, et du coup avoir beaucoup de mal à laisser la place pour les nouveaux. Et ils y arrivent, hein, mais il faut faire 2-3 passages en force avant de réussir à s'intégrer, quoi. Mais une fois que tu y es par contre.
Il suffit que tu sois coopté par une personne et à partir du moment où justement tu es là, les autres se disent si elle est là, c'est que ça va être notre pote.
Les Lévogires, les seuls encore vivants, ne peuvent cependant pas faire demi-tour et sont donc contraints à tourner invariablement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de profs, beaucoup de professions libérales. Mais il y a aussi des intermittents du spectacle, parce qu'on est quand même dans un quartier de l'intermittence.
Alors, tu nous as expliqué ta démarche de garder des bas prix. Finalement, on peut se dire que cette politique n'a pas fonctionné, parce que tout ce qui est prof, intermittent, c'est quand même des gens qui ont déjà un peu des moyens.
C'est vrai, mais le quartier ayant chassé les rémistes, forcément, ils viennent plus trop au Dahu des Pentes. Mais par contre, quand il y a un chantier, en ce moment il y en a deux dans la rue Burdeau, les ouvriers qui bossent sur le chantier viennent au Dahut des Pentes pour y manger ou pour y boire un coup, ou tout simplement parce qu'ils savent qu'ils peuvent utiliser les toilettes sans se faire engueuler, ils peuvent demander un verre d'eau. Donc, si, il y a au quotidien toujours des gens qui ont des revenus inférieurs. Mais par contre, c'est pas des habitués au même sens que les autres. C'est vrai. Qui sont un peu plus riches, mais tu sais, ils sont tellement dépensiers que finalement, ils sont aussi fauchés que moi à la fin du mois.
Moi, les notes ici, j'ai fonctionné des fois sur pas loin de 30 jours et des fois, j'y arrivais à 200 euros, quoi.
Pas mal.
Ah, c'était un demi-loyer, quoi. Mais en même temps, j'étais assez confort et heureux. Donc, bon, je mettais le malheur sur ailleurs et je mettais le bonheur sur ici.
En tendance politique, ici, je pense que tu peux partir du MoDem jusqu'à l'anarchisme. Il y a peut-être même 2-3 UMP. C'est pas ça qui rejoint les gens. Je pense que ce qui rejoint les gens, c'est justement le débat d'idées. Des fois, t'as des sujets qui provoquent des foudres, des colères, genre la gratuité des transports en commun, quoi. Et je crois que c'est ça qui les intéresse. C'est de confronter des avis et construire le tien, et entendre des arguments, des points de vue différents. On n'est pas tous d'accord sur tout. Mais on est dans le quotidien, on est dans l'humain, on est dans la vie, on est dans la réalité, parce que ça reste terre à terre comme sujet. On refait pas le monde à un niveau macroéconomique, quoi.
Les Romains avaient le forum, on avait le Dahut.
Quand on a ouvert après le passage de la loi, on a tenu à peu près un quart d'heure, je crois. Et puis, Julien, comme moi, comme ma mère d'ailleurs, on est des gros fumeurs. Et franchement, aller fumer sur le trottoir dans notre établissement qui fait 40 mètres carrés, on s'est vite dit, ils commencent à nous emmerder avec leur loi à la con. Du coup, on a allumé une clope et tout le monde l'a fait. C'est pas autorisé de fumer. Moi, quand les gens me disent, est-ce qu'on peut fumer? Je réponds non, c'est interdit par la loi. Si la police passe, tu te prends ton amende et mon amende. C'est juste que nous, on fume, on va pas dire aux gens de ne pas le faire. Ceci dit, je pense que la police, on n'a rien à cirer. Je les nargue pas pour autant, hein, quand je vois les flics à proximité, je demande aux gens d'éteindre leur clope et tout, mais je crois que personne ne leur a demandé de nous faire la chasse, ou il y a une tolérance pour les tout petits endroits, ou je sais pas pour quelle raison. Ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont forcément grillés, ils sont jamais passés.
Poussé par son instinct de reproduction, Berry tente de s'attirer les faveurs d'une jeune femelle. Mais chez les Dahuts, l'accouplement n'est pas chose aisée. Lorsqu'une femelle s'y refuse, le mâle, moins astucieux et n'ayant que rarement la présence d'esprit de reculer, n'a d'autre choix que de faire le tour de la montagne afin de retenter une approche.
Quand l'arbi est toujours au coin du comptoir, si quelqu'un rentre dans le bar, automatiquement il va s'adresser à lui pensant que c'est le patron du lieu, ouais, et que moi je suis la serveuse.
Il n'est pas rare que des mâles meurent d'épuisement en tentant désespérément de s'accoupler.
Moi, quand je suis derrière le comptoir, il y a tout un tas d'attitudes que je ne permets pas, parce que dans l'imaginaire des gens, ça commence à disparaître. Les nanas qui tiennent un comptoir sont d'anciennes prostituées. Donc on est facilement familier avec les filles, on a souvent des comportements qui sont douteux, et ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Je tolérerai pas qu'on m'appelle ma petite chérie, je tolère pas certains gestes, je tolère pas qu'on me fasse la bise d'entrée de jeu. Je suis assez ferme là-dessus pour éviter les malentendus et les mauvais comportements vis-à-vis de moi, et aussi vis-à-vis de ma clientèle féminine, parce que j'ai beaucoup de filles qui viennent ici, et entre autres parce qu'elles sont pas emmerdées, quoi.
Ce mode de reproduction a l'avantage de ne pas permettre aux individus stupides de se reproduire.
C'est mon voisin Julien et Laetitia de venir par ici.
Moi, j'avais envie de dire un mot. J'avais envie de dire un mot parce que je suis mandaté par l'amicale des anciens, et qui seront toujours là. J'avais envie de dire, la vie est belle. Et j'avais envie de remercier Laetitia et Julien par rapport à ce qu'ils ont fait.
Yes.
Et le seul slogan que j'avais trouvé, il est clair, il est net. Tout est à nous, rien n'est à eux.
préserver les dahus de l'extinction, l'Union européenne tente de l'introduire dans d'autres milieux.
Ça m'arrache le cœur, mais j'ai besoin de faire autre chose. J'ai envie d'apprendre un nouveau métier, je sais pas encore quoi, mais j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. Puis j'ai un petit garçon, j'ai envie de passer du temps avec lui. Je pense que Julien aussi a des choses à faire ailleurs, et puis il faut aussi que ma maman elle prenne enfin un petit peu de retraite. Donc je pense qu'il est temps, là, avant d'être trop blasé, trop, je sais pas, en avoir vraiment marre, quoi.
La suite pour le lieu, c'est qui va reprendre derrière?
C'est un couple de trentenaires, je les connais pas, je les ai vus quelques fois, ils ont l'air plutôt chouettes. Après, on verra ce que ça deviendra. Moi, j'ai été très précise sur l'état d'esprit du quartier, l'état d'esprit de l'endroit, mais je sais pas ce que ce sera. Ce sera la surprise pour moi aussi. Et alors, je l'aurais vendu à 95 000 euros. Si ça avait été dans nos projets, on aurait pendant un an 1000 turbins. Développer le chiffre, on pouvait facilement doubler le chiffre en faisant à manger le soir, en ouvrant le samedi, développer un chiffre artificiel et puis on l'aurait vendu super cher, quoi. Mais c'était pas dans mon projet de créer une inflation encore plus.
Écoutez, moi je crois que je suis jamais allé à un enterrement aussi joyeux, ça me fait plaisir.
C'est la fin du DAU dans la fin de la méga combi. Merci à Laetitia, bien sûr. Merci à tous ceux et toutes celles qu'on a entendues. Merci aussi à Eva et à toute la bande de clubbers Croix-Roussillon. Big up!